Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Cette émission est une rediffusion.
C'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Il faut marcher. Marcher tout seul. C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul.
Oui, oui, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à Nous le futur. C'est Claude Saint-Jean au micro. J'espère que vous allez bien. Fait que je ne suis pas habitué à ce qu'il y ait une émission avant moi. Ça me donne 30 secondes pour me préparer, tandis qu'avant, j'avais presque une demi-heure. Fait que ça va quand même. Fait qu'aujourd'hui, on va parler, je vais vous donner des nouvelles diverses pendant 15-20 minutes. Après ça, nous avons une entrevue avec M. Pierre Jasmin, un pianiste professionnel et directeur secrétaire des Artistes pour la paix. Bon. Et puis en dernier, je vais vous parler de l'espérance en mouvement ainsi que comment tomber en amour avec le futur. Fait que premièrement, je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle « Le livre noir du communisme », écrit en 1997 avec plusieurs auteurs, dont Stéphane Courtois. Là-dedans, il dit que finalement, le 20e siècle, ça a été un siècle très violent. Et, tu sais, beaucoup de catastrophes humaines. Et puis, donc, le titre du livre, je le répète, « Le livre noir du communisme, crime, terreur et répression ». Mais je ne dirais pas grand-chose à propos du livre, à part de ce que je viens de dire, là, que c'est un siècle très violent. Et le communisme a été responsable de beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. C'est-à-dire le total 100 millions de morts, OK? Fait que c'est à peu près ça que je voulais dire sur ce livre-là. Au 21e siècle, donc au 20e siècle, c'était plutôt entre les humains le problème. Hein? Puis au 21e, c'est entre l'humanité et l'environnement, surtout. Ça a été commencé un peu au 20e, mais au 21e, c'est plus l'humanité qui fait la guerre à l'environnement, plus ou moins consciemment. Et puis, nous sommes en présence d'une polycrise, comme exemple la crise de la biodiversité, la crise sanitaire, la raréfaction des ressources et les changements climatiques. Et puis, comme antidote cependant à ça, au 20e siècle, il y avait eu Buckminster Fuller en 1980 à peu près. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Fuller, c'est quelqu'un qui a travaillé à Sherbrooke en 1914, à l'âge de 19 ans, au moulin à coton. Et puis, quand il est devenu plus vieux, il a fait de la recherche. Lui, il voulait le succès de l'humanité, tu sais. Fait que c'est un inventeur très prolifique, très original, qui a fait, par exemple, le dôme géodésique qu'on voit sur l'île Notre-Dame, là, où il y avait Terre des Hommes, là. Fait que le dôme géodésique, c'est un exemple de faire plus avec moins. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de matériaux, de béton. C'est des vecteurs qui se tiennent ensemble, qui permettent de faire tenir le cercle ensemble. Et ça tu as le même résultat, une structure qui se tient, qui peut abriter quelque chose. Et ça a pris moins de matériaux, seulement des vecteurs qui tiennent le triangle ensemble. Ça, c'est un exemple. Alors lui, il a fait de 1925 à peu près à 1980 beaucoup de recherches. Il a trouvé beaucoup d'exemples de synergie comme ça, là. De sorte qu'il a pu dire dans un livre qui s'appelle Critical Path, qui n'a pas été traduit. Cependant, en 1969, il y en a un qui a été traduit. C'est le manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre, écrit par un Sherbrooke, traduit par un Sherbrookeois, M. René Pelletier. Tout un hasard, n'est-ce pas? Alors, dans Critical Path de 1980, Buckminster Fuller disait que l'humanité a maintenant tout ce qu'il faut pour arriver à ce que tout le monde vive très bien sans avoir besoin de guerre ou sans nuire à l'écologie. Et il n'a pas été écouté. Lui, il y avait un projet de 10 ans, là, un programme de 10 ans pour y arriver. Ça s'appelle Comprehensive... je l'ai en anglais. Voyons. En tout cas, la stratégie compréhensive et anticipatrice du design. Et puis, par manque d'informations, peut-être, on ne l'a pas écouté. Puis je crois que les crises actuelles, c'est parce qu'on ne l'a pas écouté. Et les guerres actuelles aussi. Parce que si on avait écouté, tout le monde vivrait très bien aujourd'hui. Et puis le seul problème, ce serait de, tu sais, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, c'est quoi le sens de la vie pour moi, comment je vais prendre soin de la Terre et tout ça. Bon, alors, OK, fait que c'est terminé pour ça. Et puis, au 21e siècle, des gens qui ont été semblables à lui, c'est la théorie du donut, et Éloi Laurent, et si la santé guidait le monde. Puis Fridtjof Capra, celui qui donne des cours d'éco-littératie que je suis en train de suivre moi-même. Là. Et puis, qui est-ce qui dit qu'on y a de l'espoir pour réussir? C'est Jane Goodall, j'en ai parlé souvent. Joanne Macy, j'en ai pas parlé souvent, mais je vais le faire aujourd'hui dans la troisième section où je vais parler de l'espérance en mouvement. Ça, c'est un de ses livres. Et puis un autre où je vais parler de comment tomber en amour du futur. Ça, c'est à la fin de l'émission. Et en deuxième partie, ça va être une entrevue dont je parlais. Fait que la première partie, jusqu'à midi 15-20, là, je vais vous dire ça assez rapidement. Comme bonne nouvelle, parce que vous savez que y a le Global News Network qui donne des bonnes nouvelles à tous les jours. Moi, j'en reçois 4 par jour. Fait que vous pouvez vous abonner à ça. Il y a Positive Future. J'ai reçu ça ce matin aussi, moi aussi. Fait que, tu sais, là, il y a des bonnes nouvelles qui nous arrivent à tous les jours. On n'est pas obligé d'écouter les nouvelles tristes de Radio-Canada ou de LCN tout le temps, là. Fait qu'à la fin des années 2020, une sorte de service qui s'appelle DoorDash a commencé à sauver des dons de nourriture à Pittsburgh, qui approchait de son expiration et se détournait vers d'autres destinations, d'autres destinataires qui pouvaient l'utiliser. Alors, DoorDash a empêcher 102 millions de livres d'émissions de gaz à effet de serre, et puis ce qui a permis de supprimer 4043 voitures de la route pendant une année entière. Et aux États-Unis, jusqu'à 40 % de la nourriture qui est produite va au gaspillage, contribuant aux émissions de gaz à effet de serre en cours de route. Donc, le groupe DoorDash a donné 250 millions de livres de nourriture, ce qui a permis de sauver 450 millions de livres d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, j'ai appris ça par Good News Network, GNN. Et puis, bien, Mère au front, je vous suggère de vous abonner à ça. C'est une infolettre que j'ai reçue aussi. Alors, le premier thème, c'est de la marche mondiale des femmes à Mère au front, l'écoféminisme décolonial en action au Québec. En 1995, 800 femmes ont marché sur les routes du Québec en réclamant du pain des roses. 30 ans plus tard, des mères se lèvent aux côtés des Premières Nations, les gardiens gardiennes des territoires ancestraux, contre des projets capitalistes qui menacent de livrer un tiers des forêts publiques à l'industrie. Cette continuité des luttes n'est pas un hasard. Elle relève l'émergence d'un écoféminisme décolonial qui lie indissociablement justice sociale, égalité des femmes, protection de l'environnement et reconnaissance des droits des personnes autochtones. Je vais parler des personnes autochtones plus tard, après avoir fini de parler de la santé, puis aussi après avoir terminé de parler de la paix. Je vais parler des Premières Nations et finalement, je vais terminer par la réforme de la démocratie, ce qui devrait nous mener à la fin du premier semestre et peut-être au début du deuxième, je ne suis pas certain encore. Alors, le maire au front parle aussi de la journée de l'air pur pour des ciels bleus. C'est 1000 personnes qui sont rassemblées en tout entre Québec, Jonquière, Rouyn-Noranda et Montréal pour dénoncer les décisions des gouvernements du Québec et du Canada qui permettent à des projets industriels tels Fondry-Orne, Nordvol, Stablex, le port de Contrecoeur, de détruire des milieux naturels à haute valeur écologique, de fragiliser la biodiversité, en plus de contribuer à la perte de terres agricoles. Alors, je vous encourage à lire Mère au front. Et puis, on nous dit, elles nous disent que le 27 septembre, il y aura une sorte de manifestation pour la suite du monde. Le mouvement pour la suite du monde lance un appel au rassemblement à travers le Québec qui est le 27 septembre prochain pour exprimer le ras-le-bol collectif envers le gouvernement du Québec qui bafoue la démocratie, et prendre des décisions qui vont à l'encontre de la transition sociale et environnementale et au bien-être de la société. Et je voudrais vous dire également que j'ai reçu, parce que je l'ai acheté moi-même, tu sais, le livre « Nos villes au front » de François-William Croteau, après avoir entendu dire que ça existait. C'est vraiment très intéressant. Et puis, pour mettre la cerise sur le gâteau, il va y avoir, dans le cadre d'un club de lecture « Essence citoyenne » à Lennoxville, il va y avoir, le mercredi 15 octobre, une rencontre à cette bibliothèque-là pour parler de « Nos villes au front » de François-William Croteau. Et il va y avoir Stéphane Bernatier, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, qui va être là, avec Marie-Ève Couture-Ménard, qui est professeur à la faculté de droit aussi ici, et Josiane K. Pouliot, qui cumule plus de 20 ans d'expérience en gestion environnementale, qui sera là, ici à Lennoxville. Alors, vous pouvez vous inscrire à cette conférence, il faut confirmer votre présence. C'est le 15 octobre à 18h, Bibliothèque de Lennoxville. Et puis, c'est dans le cadre des clubs de lecture Essence citoyenne. Moi, je me suis inscrit. J'aimerais ça vous voir là. Et puis, Vitam, c'est un organisme pour bien s'alimenter, là, pour notre santé. J'ai reçu une infolettre peut-être il y a 3-4 jours. La première nouvelle, là, c'est un recueil de 49 avis d'experts pour transformer la première ligne au Québec. Vitam a contribué à la réalisation d'un important recueil de 49 avis d'experts, d'expertes, qui a pour objectif d'informer les lectrices et les lecteurs sur le portrait actuel et l'évolution récente des soins et des services de première ligne au Québec. Il vise également à appuyer la prise de décision dans le cadre des transformations en cours dans le réseau de la santé et des services sociaux. Alors, c'est un document de 301 pages seulement que j'ai lu. Et puis, j'aurai le plaisir de faire une entrevue avec deux personnes relativement à cela. Et j'ai bien hâte de faire cette entrevue-là. Je ne peux pas vous dire quand ça va se faire, mais c'est bientôt. Et puis, ça arrive plus vite que prévu, là, à quelques minutes de l'entrevue avec M. Pierre Jasmin, secrétaire des artistes pour la paix. Et je vais passer à la publicité tout de suite et vous revenir dans quelques instants. Alors, nous revenons en onde avec à nous les futurs. Donc, il y a Pierre Jasmin, qui est secrétaire des artistes pour la paix, dont le président d'honneur est Richard Séguin. Pierre fonde la tradition des artistes pour la paix en 1989 et il suggère à Daniel Lavoie pour sa chanson « Il s'aime ». Depuis, l'organisme a élu 21 artistes, femmes, 20 hommes et 3 collectifs. L'organisme tient une réunion cruciale demain à la Société de la Saint-Jean-Baptiste qui met en jeu sa survie après 43 ans d'existence. M. Jasmin a fait un diaporama et c'est sur clé USB et la feuse va le montrer. On ne sait pas exactement quand, mais elle va vous rejoindre. Alors, pianiste diplômé d'institutions supérieures de 6 pays, Angleterre, Autriche, Californie, Canada, médaillé d'or de McGill, France, URSS, il obtient l'aide de Pierre Péladeau, admirateur de ses interprétations de Beethoven, pour construire le Centre Pierre Péladeau, dont il était le premier secrétaire, et par le fait même le département de musique dont il avait été le premier directeur. Il offre, de 1974 à 2007, des récitals annuels en Europe, particulièrement en Tchécoslovaquie, participe à une caravane pour la paix au Tibet et une flottille de la paix en Croatie sur le Slovénie, filmée par l'émission de Jean-François Lépine à Radio-Canada. L'émission d'aujourd'hui s'intéresse aux objectifs de paix des artistes pour la paix au moment où le premier ministre Carney vient de reconnaître dimanche dernier à l'ONU, lors de la Journée internationale de la paix, la Palestine au nom du Canada, au grand déplaisir du génocidaire Netanyahou, de Donald Trump et de Pierre Poilievre. Alors, M. Jasmin, j'ai fait votre présentation à votre suggestion par courriel. Ça vous plaît? Ça va?
Oui, merci. Bon. Juste une précision. En 89, je fonde la tradition des artistes pour la paix de l'année. Ben, mais le mouvement a été fondé, en 83, 1983.
Ah, voilà. D'accord. C'est bon, c'est bon. Et vous avez été, en plus de cofondateur, président?
Non, je ne suis pas cofondateur, j'ai été président, oui. Ben, c'est une histoire courte, mais c'est Joseph Rouleau, la grande basse, vous savez, qui est connue à travers le monde, qui m'avait demandé de le remplacer à la vice-présidence des Artistes pour la paix. Okay. Donc, en 84, donc, je suis arrivé pas longtemps après le début du collectif.
OK. Et Greta Thunberg, bien, elle fait comme vous, finalement.
C'est-à-dire?
Non, mais elle est dans une flottille.
Oui, non, mais c'est, ça serait très immodeste de prétendre qu'elle fait comme moi. Okay. Non, elle est extraordinairement courageuse, puis j'ai vraiment peur pour elle, et on a reçu une lettre ce matin de celle qui représente Centraire, le mouvement écologique à l'UQAM, et qui demande à la ministre des Affaires extérieures de protéger la flottille de paix cette fois-ci pour pas qu'elle se fasse bombarder par Israël.
OK, merci. Bonne idée, merci. Alors, de quoi voulez-vous parler en premier? De votre réunion de demain ou de la reconnaissance?
Ben, peut-être j'ai parlé des objectifs de paix.
Oui, okay.
Je pense qu'il faut les rappeler, et parce qu'ils sont toujours à redéfinir. Ils ont été bien expliqués par notre président d'honneur, Richard Séguin, quand tout le monde en parle, en juin. Et il s'agit de résister à la marchandisation du monde, de résister avec la beauté concrète. Et je m'adresse à tous tes auditeurs, ceux qui sacrifient leur intérêt économique immédiat en poursuivant leurs études à l'Université de Sherbrooke. Alors, je pense bien sûr à mes deux enfants, c'est naturel d'abord, et aussi aux étudiants en médecine qui sont pris en otage par le projet de loi 26 du gouvernement. Mais je pense aussi à celles qui créent de la beauté en chantant dans des chorales, en peignant des tableaux ou en tissant des tapisseries, en cuisinant dans des cuisines collectives. Je pense aux grands-mères qui tricotent avec la laine du Québec des chandails pour leurs petits-enfants en prévision de l'hiver dans des loyers trop chers où leurs parents devront économiser sur le chauffage et l'alimentation parce que leur gouvernement fédéral s'achemine vers un 4 novembre et un déficit budgétaire de 100 milliards de dollars. C'est-à-dire environ 2 500 $ de dette pour la grand-mère, comme pour le bébé qui vient de naître. Je calcule ça, bien sûr, sur le fait qu'on est environ 40 millions de Canadiens. Alors, pourquoi? Pourquoi ces dettes, essentiellement, et nos médias se taisent là-dessus, et veulent nous faire taire en faisant disparaître les Artistes pour la paix, par des dépenses militaires que Trump et l'OTAN exigent pour la défense du monde libre. Rappelons que la Russie a, comme le Canada, quadruplé son budget militaire, qui, comme l'organisme Science et Paix le rappelle, ça ce sont les professeurs de l'Université de Toronto, n'est même pas à 10% de ceux de l'OTAN. Et le Canada s'endetterait avec des produits américains comme avions de chasse périmés, comme les F-35, des sous-marins inutiles, des munitions, des armes que la députée Nathalie Provost, victime de blessures à Polytechnique en 1989, croit pouvoir éliminer dans le civil, en dépit d'un ministre irresponsable, M. Ananda Sankari, qui croit en une mode destinée à plaire à l'électorat québécois différent, pour ne pas dire déviant, croit-il. Dans ce concert de mauvaises nouvelles, dont la décision ce matin du gouvernement Legault de couper 134 postes au ministère de l'Environnement...
Ce matin. OK, je ne savais pas.
Et le taux d'acidité des océans, qui a dépassé le seuil critique pour la survie de poissons comestibles dans plusieurs endroits... Nouvelle de ce matin aussi. Il y a heureusement des exceptions, alors je ne veux pas démoraliser tout l'auditoire, parce que il y a des exceptions. L'abandon de la loi 97 sur le bois d'œuvre, donc c'était une bonne décision de Legault. Et du côté du Canada, surtout la visite lors de la, comme tu l'as déjà mentionné, mais la visite lors de la Journée internationale de la paix dimanche dernier, pour être, après la Norvège, l'Espagne et l'Islande, Et l'Irlande, l'Islande aussi, parmi les premiers pays de l'OTAN à reconnaître la Palestine au grand déplaisir de Netanyahou et Trump. Mm-hmm. Et je pense que c'est vraiment le notre... c'est de quoi il faut se réjouir ce matin. Penses-tu que je devrais lire cette lettre qu'on a écrite au premier ministre et à la ministre des Affaires étrangères, parce que ils nous ont répondu aussi, alors je trouve ça intéressant.
Oui.
À cause de ça, parce que c'est positif qu'ils nous répondent, parce que depuis pas mal de... depuis 3 ans, ils nous parlent plus.
Oui.
Alors,
oui.
Notre communiqué. Nos remerciements, M. le Premier ministre Marc Carney et Mme la ministre des Affaires étrangères Anita Anand, 13 ans après l'ignominieux refus de Stephen Harper de reconnaître la Palestine, isolant ainsi le Canada avec 8 autres pays délinquants du reste des Nations Unies, les Artistes pour la paix vous remercient d'avoir tourné le dos à la haine génocidaire contre un peuple qui mérite la paix que tente de lui apporter une flottille de paix avec à son bord notre amie Greta Thunberg.
Mm-hmm.
La Palestine souffre d'une famine entretenue par un tyran qui a bloqué les secours que voulait lui apporter l'admirable Francesca Albanese et l'UNRWA, donc l'Office de secours des Nations Unies. Les documents en annexe expliquent par quel cheminement de pensée pro-ONU pour la justice et la paix nous arrivons à vous dire merci en espérant que le retard de votre reconnaissance n'entraînera pas des souffrances irrémédiables. Avec notre reconnaissance d'avoir vu la lumière en cette journée de la paix du 21 septembre, et j'ai signé comme secrétaire général des Artistes pour la paix après consultation.
Mmh,
j'ai reçu du bureau du premier ministre, évidemment le premier ministre étant parti en Europe, pas en Europe, à New York, puis est parti en voyage ensuite, c'est vrai. Alors, monsieur, j'ai reçu cette réponse de monsieur Côté, ou madame Côté, je ne sais plus, qui est agente de la correspondance... Hey, monsieur, au nom du premier ministre Marc Carney, j'accuse réception de votre correspondance du 21 septembre 2025 au sujet de la reconnaissance de l'État de Palestine par le Canada.
Mm-hmm.
Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écrire au premier ministre Carney. Je puis vous assurer que nous avons lu attentivement les commentaires que vous nous avez fournis.
Mm-hmm.
Alors,
félicitations.
Je pense que c'est... ça a été beaucoup critiqué, la lettre, ma lettre, en fait, par des gens qui pensent qu'il faut entretenir la lutte internationale contre Israël, qu'il faut, bref, faire la guerre à ceux qui veulent faire la paix. Et c'est parce que, pour moi, bien sûr, je pense pour notre organisme, on est naïf dans le sens qu'on croit les engagements concrets d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies.
Mmh.
Et puis, on croit qu'il ne faut pas rejoindre les rangs de ceux qui méprisent l'ONU, comme Donald Trump.
Mmh.
Alors, c'est très important, je pense, de faire bloc autour de l'ONU. C'est notre seul espoir pour que le monde sorte de l'espèce de cheminant vers la guerre dans lequel on est tous imbriqués, dans le fond, avec l'OTAN en particulier.
Oui.
Voilà.
Je reçois, moi, l'infolettre de l'ONU à chaque jour. Et j'encourage nos auditeurs et auditrices à s'abonner aussi. C'est gratuit. Puis on est
très bonne idée, oui. Okay. Moi aussi, je reçois. C'est ce qui me permet, enfin, c'est ce qui nous permet de ne pas succomber au désespoir stérile et de dire de travailler encore plutôt que de dire il n'y a rien à faire.
Oui, je suis d'accord avec vous, puis vous entrez dans l'objectif de cette émission, qui est de montrer que nous avons une capacité à co-créer un beau futur.
Oui, à nous le futur, effectivement.
Oui, c'est ça.
Mais peut-être que je peux parler de la soirée de vendredi. Là,
oui, d'accord.
En quelques mots, si tu m'en laisses l'occasion.
Avec plaisir. Excuse-moi, tu sais, tout le monde, là, c'est M. Pierre Jasmin, qui est secrétaire des Artistes pour la paix. Et il ne faut pas oublier que c'est un pianiste international... vraiment réputé là, qu'on écoute en ce moment. Là. Alors, Pierre, s'il vous plaît, continuez.
Merci. D'ailleurs, j'ai produit un disque cet été que j'ai pas le temps de vendre parce que je suis seulement en train de travailler pour les artistes pour la paix. Mais ça fait partie des sacrifices que les artistes doivent faire. Et c'est pas seulement M. Farrell qui fait des sacrifices parce qu'il est un peu le martyr à Los Angeles, à ABC, pour résister à l'attaque de Trump contre les artistes, contre la liberté d'expression aux États-Unis, et on l'appuie, bien sûr.
C'est pas Kimmel, vous avez dit Farrell?
Kimmel, oui.
OK, Kimmel.
Oui, c'est ça.
OK.
Est-ce que j'ai dit autre chose? Oui, peut-être, moi, je l'ai pas, effectivement.
C'est correct.
Alors, ben, notre soirée de vendredi, c'est qu'on se présente, parce qu'on n'a pas réussi en juin de rassembler plus que 4 personnes pour continuer le conseil d'administration des Artistes pour la paix. Et à moins que de nous sacrifier, comme faire 60 heures semaine, comme je fais moi depuis 3 mois, ça sera pas possible de continuer l'organisme si on n'attire pas des gens prêts à sacrifier un peu de leurs loisirs pour travailler pour la paix. Alors, pour essayer de motiver ces gens de venir avec nous, on présente 200 diapositives en 7 parties. Puis là, c'est une primaire que j'accorde à CFAK parce que c'est la première fois qu'on explique la teneur de ce vendredi soir à la Société Saint-Jean-Baptiste à Montréal, 7h30, au 82 Sherbrooke West. Donc, ça va être en 7 parties, 200 diapositives. La première partie, c'est « Qui sommes-nous? » avec 7 diapos sur le présent, 27 sur le passé. La seconde, sur les actions de paix entreprises avec l'UQAM, en 26 diapos. La troisième sur les dérives néolibérales au profit des guerres mondiales en 25 diapositives. La quatrième sur les armes et centrales nucléaires plus liées qu'on ne le pense en 43 diapositives. La cinquième en 17 diapositives sur les indispensables contributions des Premières Nations. La sixième sur l'ONU qui nous éclaire le chemin en 13 diapositives. Et la dernière partie en 36 diapositives sur les féministes qui éclairent notre chemin. Et c'est pas étonnant que Trump fait tout son combat contre les woke, contre les féministes, contre la contraception, contre tout ce qui améliore le vécu des femmes du monde entier. C'est tragique en Afrique où des milliers de femmes meurent du retrait des subventions que les États-Unis apportaient. Voilà. Voilà, c'est un peu une sorte de message de détresse et qu'on ne peut pas porter, hélas, à Radio-Canada, parce que Radio-Canada, même s'il y a des journalistes extraordinaires comme Asep Voldegorgiste ou avec Marie-Ève Bédard ou comme Sophie Langlois qui font des reportages réels, il y a toute la désinformation aussi, hélas, d'une radio, par exemple, qui a fait 3 reportages de 5 ou 10 minutes, même à un moment donné, sur les 40 ans de Super Mario Bros, mais qui, pour notre 40e anniversaire, qui avait lieu au pavillon de l'arbre nommé Frédéric Bach au Jardin botanique, un spectacle extraordinaire organisé par la présidente, ils n'ont pas envoyé une seule caméra, ils n'ont pas envoyé un seul journaliste pour en parler. Alors, je veux dire, qu'est-ce qui est plus important pour notre Québec, les 40 ans de Super Mario Bros ou les 40 ans d'un organisme qui a travaillé chaque année pour des objectifs, par exemple, dénonciation de la guerre d'Afghanistan. On a dépensé 10 milliards là-dessus, l'armée. Seulement, et bien sûr, plein d'autres argent qui allait à cette guerre contre les talibans, avec comme résultat, hélas, maintenant, un pays dévasté, un pays qui a connu un tremblement de terre absolument exceptionnel et pour lequel notre gouvernement a envoyé généreusement 3 millions de dollars. Mm-hmm. Comparaison, 3 millions pour des victimes de tremblements de terre, 10 milliards pour les bombarder, pour essayer de les convertir à la paix, Pax Americana. C'est absolument horrible. Mais les artistes pour la paix, j'ai vu plusieurs émissions, même à Radio-Canada récente, dans lesquelles on rappelait notre 2003, où on avait ramassé dans la rue plus de 100 000 personnes pour protester, pour faire en sorte que le Canada n'entre pas en guerre avec l'Irak, avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et Jean Chrétien nous avait écoutés et on a empêcher cette horreur de plus. Okay. Donc, c'est possible, si on se groupe, de faire un travail qui soit efficace, je pense. Mais évidemment, je ne suis pas très objectif là-dessus. Mais voilà.
Bravo pour ça.
Je te remercie beaucoup de m'avoir entendu à ton émission et j'espère que les gens pourront réagir et encourager la FEUC, entre autres, qui me dit qu'ils seraient intéressés à voir notre diaporama. Mm. Voyez un peu les annonces à venir là-dessus, parce que c'était la première nouvelle que j'en avais.
D'accord. Est-ce que dans ce diaporama, il est question de désarmement et de démilitarisation?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est notre principal... Évangile. Non seulement le désarmement civil, où on a participé chaque année depuis 1989 aux cérémonies sur le Mont-Royal, même quand on était trois ou quatre. C'est ça, au début, dans les années 90, c'était même pas reconnu par la presse à ce moment-là comme un féminicide. C'était juste un malencontreux incident. Mm-hmm. Heureusement, on voit qu'on a fait du progrès. La société québécoise a fait un progrès extraordinaire depuis ces années-là. Mm-hmm. Et non seulement donc le désarmement civil, mais le désarmement tel que demandé par l'ONU et en particulier du groupe UNIDIR, qui est mené par Izumi Nagamitsu, un nom que personne ne connaît, UNIDIR, un nom aussi que à peu près personne ne connaît, et encore une fois, c'est de montrer à quel point l'ONU est à l'avant-garde pour donner les objectifs de désarmement, et tu as raison de me rappeler que c'est un des engagements majeurs des artistes pour la paix.
Est-ce qu'il y a des plans de désarmement de la part de l'ONU?
Oui. Ouvrez ONU, UNIDIR, UNIDIR, et vous verrez tout ça. Bien sûr, c'est notre réunion qui a lieu demain, le 26 septembre. C'est pas un hasard, parce que le 26 septembre, c'est la journée internationale, justement, du désarmement nucléaire. Oui. Et ça a été instauré seulement il y a quelques années, quand on a réussi à faire admettre par plus d'une centaine de pays que c'était un objectif vers lequel on allait travailler. Mais comme le Canada ne s'est pas engagé là-dedans, les journaux n'en parlent pas. Je suis allé à un extraordinaire spectacle à Dunham samedi dernier, donné par notre ex-présidente, Louise-Marie Beauchamp. C'était un spectacle de paix avec son groupe pianiste, violoncelliste, et elle chantait. La salle était pleine, une petite salle, mais remplie. Mmh. Et à un moment donné, j'ai pris le micro parce qu'elle m'a invité à le faire. Je l'ai félicité et j'ai dit, savez-vous que, parce que c'était la fin du spectacle, dans 2 heures, nous allons être dans la Journée internationale de la paix avec cette merveilleuse introduction que vous venez d'entendre. Mmh. Et de la salle qui était bien sûr vendue à un spectacle pour la paix, que des cris de surprise. Ah, c'est vrai. Mm-hmm. Donc, on voit que rien n'est fait, même dans nos journaux locaux, à part des journaux admirables comme Regard ou bien comme Entrée libre, rien n'est fait pour renseigner les gens sur les programmes et les objectifs de paix. Mm-hmm. Et c'est pourquoi on existe, mais sauf que quand on est censuré, on n'a pas grand résultat.
Oui.
Alors, je suis d'autant plus reconnaissant que tu nous ouvres le micro pour l'émission de CFAQ.
Bon, merci. Et moi, je suis reconnaissant à vous, les artistes pour la paix, pour m'avoir soutenu lorsque, au conseil municipal, j'ai demandé à la ville de Sherbrooke, par une signature, de soutenir le traité d'interdiction pour les armes nucléaires. Alors, vous êtes venu avec moi au conseil municipal faire cette demande, et je vous remercie beaucoup.
C'est le moins qu'on puisse faire.
Oui, c'est vrai. Pour l'instant, la ville n'a pas encore répondu, mais j'ai de l'espoir. Je suis.
Oui, mais tu es persistant, alors on verra.
Oui, d'accord. J'aimerais que les.
Et je pense que les auditeurs devraient être persistants aussi. C'est à vous à écrire des courriels à la ville de Sherbrooke et de demander, surtout en cette période d'élection, ça risque de porter encore mieux, de demander un engagement pour signer. Avec les maires pour la paix qui sont basés à Hiroshima. Moi, j'ai connu trois maires pour la paix actuellement. C'est M. Mitsui qui est à la tête de l'organisme, de signer donc avec les maires pour la paix une demande que notre pays, mais enfin nos villes aussi peuvent se prononcer pour le traité sur l'interdiction des armes nucléaires.
Oui, je pense qu'il y a 20 villes du Québec manquent des maires pour la paix.
Et oui, puis, mais sont-elles actives? Oui,
c'est ça, c'est ça. Puis Sherbrooke en fait partie. Mais je pense qu'elle n'a pas renouvelé son adhésion. Peut-être qu'elle trouvait ça trop cher, là. Mais justement, j'ai une question.
Ben, c'est pas cher du tout. Ouais. Quand même.
D'accord.
C'est comme être membre des Artistes pour la paix. C'est 30 $ pour un an, là. C'est pas.
D'accord.
Mais
justement,
pas très cher.
Monsieur Jasmin, justement, qui peut être membre des Artistes pour la paix? Est-ce que ce sont des artistes seulement?
Non, tout le monde. De toute façon, comme j'ai dit dans mon introduction, qui est artiste? Artisan pour la paix. La grand-mère qui tricote c'est très, très, très vaste. Et on a une section qui s'appelle Amis des artistes pour la paix. Si vous avez une gêne de vous déclarer artiste pour la paix, donc cocher cette rubrique ou cette catégorie. Oui. Mais enfin, on n'est pas regardant sur la définition.
Oui, moi, je me trouve amateur, artiste pour la paix. Quoique j'ai appris le piano pendant 8 ans dans mon enfance.
Oui.
Mais vous dites que, comme moi, des gens qui font des émissions de radio sont aussi des artistes pour la paix.
Oui, l'Union des artistes a toute une section, non seulement des animateurs de radio et télévision. Alors, c'est tout à fait légitime que tu te déclares artiste.
Mm-hmm. Fait 43 ans d'existence, c'est énorme.
Oui, mais ça va être rien du tout s'il n'y a pas des gens qui se présentent vendredi pour travailler, parce qu'il y a tellement de travail. Et on accuse les médias de nous censurer, mais des fois, c'est notre organisation qui n'envoie pas à temps les communiqués nécessaires pour qu'ils réagissent. Alors, voilà.
D'accord. Et bon, mais est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou bien l'essentiel?
Ben, je ne veux pas abuser de mon temps parce que tu m'avais parlé de 15 minutes et puis on est déjà pas mal passé ça.
Ben, on peut continuer un peu si vous avez d'autres segments ou thèmes à ajouter, mais on peut terminer maintenant. Si...
Oui, donc c'est ça, on est depuis 25 minutes en ondes. Je pense que c'est très généreux de votre radio
D'accord.
de m'avoir accueilli. Mais surtout, j'ai encore la 7e partie de notre présentation de demain soir à finir à inscrire. Alors, encore beaucoup de travail, quoi.
OK, vous êtes prolifique et créatif et je vous laisse du temps pour le faire. Alors, merci beaucoup, M. Pierre Jasmin, secrétaire des Artistes pour la paix, de nous avoir si bien informés ce matin.
Alors, merci à l'animateur de À nous le futur, Claude Saint-Jean. Merci.
Merci,
au
bonjour.
Revoir.
Alors, je pense qu'on va continuer avec la publicité, qui devait être dans 4 minutes, mais je vais la faire tout de suite. Alors, merci beaucoup aux Artistes pour la paix et bonne chance pour votre réunion demain. Alors, les vraies affaires, bon, mais c'est ici que ça se passe, à nous le futur, avec Claude Saint-Jean. Merci à CFAQ de nous donner la parole. Et je vais continuer deux thèmes principaux, là. C'est l'espérance en mouvement, Ça veut dire... J'entends un double son, là, en tout cas. Fait que c'est... Voyez-vous, l'expérience en mouvement, c'est écrit par Johanna Macy. Vous en avez entendu parler, certainement. Elle est décédée récemment, mais elle a écrit et agi beaucoup pour la paix. Fait que dans ce livre-là, là, elle nous parle de transition, puis elle a écrit aussi un livre qui s'appelle « Éco-psychologie pratique et rituelle pour la Terre », duquel je m'inspire pour la suite de ce segment. Alors, tu sais, quand je vous ai dit que Buckminster Fuller nous a dit que nous avons tout ce qu'il faut pour très bien vivre, il n'est pas tout seul là, à avoir dit ça. Fait que ça me fait plaisir, moi, quand je trouve des gens qui disent la même chose, en d'autres mots, de vous le livrer. Alors là, Mme Macy, dans son livre « Éco-psychologie pratique et rituelle pour la Terre », elle dit « Nous pouvons encore opter pour un monde qui soutient la vie. Nous pouvons choisir la vie. Même confronté au dérèglement climatique mondial, à la contamination nucléaire qui dépasse les frontières, à l'hydrofracturation, aux mines à déplacement de sommet, à l'extraction de sable bitumineux, au forage en eau profonde et aux modifications génétiques de nos denrées alimentaires, nous pouvons encore choisir la vie. Nous pouvons encore agir pour assurer un monde viable. Il est crucial de savoir que nous pouvons répondre à nos besoins sans détruire le système qui soutient la vie. » Est-ce que vous avez entendu? Je vais le répéter. Il est crucial de savoir que nous pouvons répondre à nos besoins sans détruire le système qui soutient la vie. Nous possédons les connaissances scientifiques et les moyens techniques nécessaires pour y parvenir. Nous avons les ressources et les savoir-faire nécessaires pour produire suffisamment de vraies nourritures non modifiées. Nous savons protéger la pureté de l'air et de l'eau. Nous pouvons générer l'énergie dont nous avons besoin grâce au solaire, à l'éolien, à la force marémotrice, à la biomasse marine. Nous disposons de méthodes de contrôle des naissances qui permettent de ralentir la croissance de la population humaine, voire de la réduire. Nous avons les mécanismes techniques et sociaux pour démanteler les armes, éloigner les guerres. Ça, c'est proche de ce que disait M. Pierre Jasmin tout à l'heure, secrétaire des Assises pour la paix, et donner à chacun une voix dans une autogouvernance démocratique. Ça, c'est proche aussi de la réforme de la démocratie dont je vais vous parler. Vers la fin de ce semestre, nous pouvons exercer notre imagination morale pour harmoniser nos styles de vie et nos modes de consommation avec les systèmes vivants de la Terre. Choisir la vie signifie construire une société qui soutient la vie. Selon Lester Brown et Earth Policy Institute, une telle société est une société qui satisfait à ses besoins sans compromettre les perspectives des générations futures. Je répète, sans compromettre les perspectives des générations futures. Contrairement à la société de croissance industrielle, une société qui soutient la vie tient compte de la capacité de charge de son système régional et planétaire, à la fois dans les ressources qu'elle consomme et les déchets qu'elle produit. Choisir la vie à ce moment de l'histoire de la planète est une vaste aventure. Et cette activité humaine, là, aux multiples facettes qui ouvrent pour la vie, qui œuvrent pour la vie, ne fait peut-être pas la une de nos journaux, comme disait M. Jasmin tout à l'heure, ou des informations télévisées, mais elle aura, pour nos descendants, plus d'importance que toute autre action. Car si un monde viable doit exister pour ceux qui viendront après nous, ce sera parce que nous aurons réussi à opérer la transition entre la société de croissance industrielle et une société qui soutient la vie. Entre parenthèses, le physicien Fridtjof Capra, pour lui, là, c'est la principale cause de tout ce que nous endurons comme souffrance, c'est-à-dire la croissance économique automatique sans tenir compte des limites de la planète. Nous pouvons choisir une croissance qualitative et je parlerai de ça plus souvent à l'avenir. Donc, ils verront à ce moment comme un moment crucial. Alors que la révolution agricole a demandé des siècles et la révolution industrielle des générations, cette révolution écologique doit advenir en l'espace de quelques années. Elle doit aussi être consciente, car elle ne concerne pas seulement la politique économique, mais aussi les habitudes, les valeurs et les idées qui la sous-tendent. Alors, nous pouvons choisir notre histoire, chers auditeurs, chères auditrices. Par histoire, nous entendons notre version de la réalité. Qu'est-ce que nous avons comme choix? Bien, nous pouvons, dit Johanna Macy, faire comme d'habitude, c'est-à-dire la société de croissance industrielle. C'est, tu sais, le livre Earth for All, La Terre pour tous, là. Dans un de ses scénarios, elle parle de ça, là, faire comme d'habitude. Elle appelle ça là, les petits pas. Puis elle a évalué un scénario, tu sais. J'en ai déjà parlé une fois, puis je vais interviewer quelqu'un à ce propos-là bientôt. Fait que Mme Macy, je reviens, elle parle de l'effondrement de l'histoire. Puis même si les journalistes en parlent un peu, ça fait quand même partie de « on fait comme d'habitude ». Mais elle parle du changement de cap. C'est l'histoire de ceux et celles qui voient l'effondrement et ne veulent pas qu'elle ait le dernier mot. Elle implique des réponses humaines, nouvelles et créatives qui permettent de passer de la société de croissance industrielle à une société qui soutient la vie. Le thème central consiste à s'unir pour agir au service de la vie sur la Terre. Fait que c'est fini pas mal pour ce livre-là, l'éco-psychologie pratique. Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit que le communisme avait fait 100 millions de victimes au 20e siècle. Mais qu'est-ce qui arrive avec le capitalisme? Eh bien, Fridtjof Capral, le physicien qui a écrit beaucoup de livres, par exemple « Sagesse des sages », et en anglais « The Systems View », il dit que, d'ailleurs, il dit ça dans son cours, là, parce qu'il donne un cours sur l'écolithératie en 12 chapitres. Moi, je le suis et je suis rendu au 2e chapitre, mais je crois que c'est au 10e. Il dit, parce que moi, j'ai les sommaires hein, en français, fait que je lis d'avance, là. Le capitalisme mondial doit être repensé en profondeur, dit Fridtjof Capra. C'est une manière de dire que jusqu'à maintenant, on a eu un échec, là. Le capitalisme n'est pas mieux que le communisme. Il examine les activités de la société civile mondiale et le mouvement pour la justice mondiale qui vise à changer le fondement des règles du jeu. Je tourne la page. Alors, Fridtjof Capra, dans son cours numéro 11, dit que les problèmes d'énergie, d'environnement, de changement climatique, de pauvreté et d'inégalité sont intrinsèquement interconnectés et interdépendants et nécessitent des solutions systémiques adaptées. La croissance économique et celle des entreprises constituent les forces motrices du capitalisme mondial qui favorise une consommation excessive et une économie de jetable, générant des déchets, de la pollution et l'épuisement des ressources naturelles. Le principal défi consiste à passer d'un système économique basé sur une croissance perpétuelle à un modèle à la fois écologiquement durable et socialement équitable. Fait que, par rapport à ça, il choisit la croissance qualitative. Et cette définition-là, dans le cours 10, il dit que ça implique que la première étape est de comprendre comment la nature soutient la vie. Et récemment, cette compréhension a été désignée par le terme de littératie écologique ou écolittératie. Être écolittéré signifie comprendre les principes fondamentaux de l'écologie et concevoir nos communautés en conséquence. Bien sûr, il existe des différences significatives entre un écosystème et une communauté humaine, mais nous devons apprendre des écosystèmes à vivre de manière durable. Cette sagesse issue de la nature constitue le cœur de l'écolittératie. Dans la décennie à venir, la survie de l'humanité dépendra littéralement, je tourne la page, de notre écolittératie, de notre capacité à comprendre les principes fondamentaux de l'écologie et de vivre en conséquence. Nous devons enseigner à nos enfants, nos étudiants et à nos dirigeants d'entreprise et politiques les faits fondamentaux de la vie, que des déchets d'une espèce sont la nourriture d'une autre, que la matière circule continuellement dans le réseau de la vie, que l'énergie alimente ces cycles écologiques qui proviennent du soleil et que la diversité assure la résilience et que la vie, depuis ses débuts, il y a plus de 3 milliards d'années, n'a pas conquis la planète par le combat, mais par le réseautage. la coopération et les partenariats. Enfin, il conclut, M. Capra, que les solutions systémiques absorbées dans ce dernier cours démontrent clairement que la vision systémique de la vie nous a fourni les connaissances et les technologies nécessaires pour bâtir un avenir durable. Alors, c'est ce que, tu sais, lui dit la même chose finalement que Mme Massey et Buckminster Fuller, et je le relis pour que vous compreniez bien. Je conclus que les solutions systémiques absorbées dans ce dernier cours démontrent clairement que la vision systémique de la vie nous a fourni les connaissances et les technologies nécessaires pour bâtir un avenir durable. Ce qu'il nous faut désormais, c'est la volonté politique et le leadership. Alors, chers auditeurs, chers auditrices, qui appartenaient à la génération post-baby boomers, qui souffraient parfois d'éco-anxiété, bien, soyez encouragés, on peut avoir un beau futur. Et je continue ainsi. Et aussi. Là, je tombe sur des pages du premier segment. C'est assez, là. Fait que le livre « La Terre pour tous », j'en ai parlé, mais c'est bon de vous dire que il y a deux scénarios possibles. C'est les pas des géants. Ça nous conduit à la paix et l'avenir. C'est Christina Figueres qui nous fait un bel avant-propos. Elle dit que des millions de personnes dans le monde souffrent des conséquences du chaos climatique, etc. Earth for All nous montre comment faire face à cet ensemble de crises et ce qui est en fait un livre si essentiel. Porté par un optimisme résolu et constant, il trace le chemin des possibles. Et il y a eu un article dans Le Devoir cette semaine qui critiquait la psychologie positive, qui est optimisme et optimiste. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec cet article-là. C'est-à-dire qu'on peut être adepte de la psychologie positive tout en ayant la conscience des problèmes que nous vivons et en ne fuyant pas la réalité triste. T'sais. Fait que Guy Thérèse, dans la préface, dans son avant-propos, elle dit qu'il faut faire avancer le salutaire et nécessaire travail de régénération. Nous avons besoin d'être portés par un état d'esprit créatif et optimiste pour trouver le courage nécessaire à la transformation des économies et pour le bien-être humain et le bien-être de la planète, qu'elles deviennent des priorités. Alors, pour changer le cap, le monde intérieur invisible de chacun d'entre nous a besoin, lui aussi, d'être régénéré avec compassion et solidarité envers nous-mêmes et envers les autres. La métacrise n'est pas seulement extrinsèque hors et autour de nous, elle est aussi intrinsèque en nous. Alors, le résultat final, c'était l'accord historique de Paris sur le changement climatique quelques années plus tard, c'est les gens qui examinent l'extérieur et aussi leur intérieur peuvent être plus efficaces. Étonnamment, le changement des systèmes à grande échelle est aussi une affaire personnelle. Il commence avec chacun d'entre nous, par les priorités que nous établissons, ce que nous sommes prêts à défendre et la façon dont nous décidons d'être au monde. Nous sommes les auteurs du prochain chapitre de l'humanité. Dit Christina Figueres, réfléchissez désattentivement et avec détermination au pas de géant que vous devez et pouvez faire à votre échelle pour contribuer pleinement au pas de géant extraordinaire dont Earth for All nous offre si généreusement la feuille de route. Earth for All, c'est un livre qui a un sous-titre en français, là. La Terre pour tous, c'est un nouveau rapport au Club de Rome. Et je continue. Oh, wow, il me reste 4 minutes pour vous dire que Rob Hopkins a écrit un livre, c'est How to Fall in Love with the Future. C'est super intéressant, puis j'aimerais ça que la bibliothèque de Lennoxville en parle aussi. Par la même occasion, il y a Elise Boulding qui a fait des ateliers pour imaginer le futur. Elle dit que ça prend une intention, il faut déverrouiller les images stockées dans notre mental pour imaginer un beau futur. Fait que Elise Boulding a fait, il y a plusieurs décennies, là, elle a écrit un livre, c'est « Visualisons un monde sans armes ». Vous pouvez aller trouver ça, ce livre-là, ça va vous aider à répondre à nos questions, puis à pratiquer votre imagination qui est un muscle. Fait que moi, je vous ai posé des questions dans le passé, là. c'est quoi l'image de votre du futur positif pour vous? Et puis aussi, on peut aller plus loin, c'est imaginez que votre futur positif est réalisé, disons, en 2030. Alors, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça sent? C'est à peu près ça, tu sais. Fait que je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Je vous souhaite d'imaginer un beau futur, de tomber en amour avec le futur, de vous souvenir de ce beau futur-là. Et puis, on va en reparler dans d'autres émissions. Ici Claude Saint-Jean pour À nous le futur, À nous le beau futur. Et c'est tout. Salut.